Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis de Radio Kardec, soyez les bienvenus pour cette émission. Nous commencerons par l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. En seconde partie, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirit de la province de Liège en Belgique, avec qui nous poursuivrons la lecture de la jeunesse selon le spiritisme. Pour émettre des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et autres pays limitrophes, ou tout simplement consulter notre site internet. À toutes et tous, nos amitiés civiles ou fraternelles selon, agissons avec amour aussi souvent que nous le pouvons. N'abandonnons jamais l'espoir. Sachons aussi que nous sommes aimés, car nous sommes le seul moyen dont dispose l'amour pour triompher de son contraire. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Pour bien débuter cette émission, voici l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique, tout d'abord. Le dimanche 14 novembre 2010, de 13h30 à 17h30, nos amis du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, le CESAC, en collaboration avec le noyau d'études spirites Camille Flammarion Nicafla de Bruxelles, ainsi que le groupe spirite Alain Kardec de Luxembourg, le GESAC, organisent une première rencontre pour les jeunes spirites de Belgique et Luxembourg. Les activités prévues pour cette journée vraiment exceptionnelle auront lieu au siège social du CESAC, 134 rue Louis App, à 1040 Bruxelles, capitale. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante, cesacbruxelles@gmail.com. Le mercredi 17 novembre 2010, à 19h30, aura lieu la conférence du docteur José Fernando de Souza. Il vous parlera des troubles d'attention, hyperactivité, enfant indigo. Le dimanche 28 novembre 2010 aura lieu, comme chaque année, le souper du CESAC avec des plats typiquement brésiliens. Bientôt, vous pourrez réserver votre invitation directement par email cesacbruxelles@gmail.com. Le CESAC nous prie de vous rappeler que tous les samedis, de 15h45 à 16h50, ils organisent l'évangélisation enfants et jeunesse de 7 ans à 14 ans. Inscription dans la bibliothèque du CESAC ou par email. Tous les mercredis, de 20h à 21h30, nouveau groupe d'études, l'entrée est libre. D'autres activités sont réalisées au CESAC. Vous pouvez les contacter pour plus d'infos ou simplement prendre un rendez-vous sur le site http://bruxelles.cesac.org. L'adresse du siège social, rue Louis App 134 à 1040 Etterbeek, ou par téléphone en formant depuis la Belgique le 02 647 37 85. Je vous rappelle l'email de nos amis du CESAC, cesacbruxelles@gmail.com. Au Grand-Duché du Luxembourg, le samedi 20 novembre 2010, premier symposium du Grand-Duché de Luxembourg, sur un sujet bien connu, interconnexion médecine-spiritualité. Celui-ci sera placé sous l'égide de nos amis du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg et de l'association des médecins Spirit. L'adresse du jour, centre sociétaire 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg Gare. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact par courriel à l'adresse suivante, Alain Kardec Lux en un mot @yahoo.fr ou directement via le site du GESAC www.groupespiritalainkardeclux.com. En France, à Waterloo, l'association Le Centre d'études spirites Alain Kardec de Waterloo vous invite à la conférence L'aura et ses secrets, le dimanche 7 novembre 2010 à 15h, hôtel Kiriart, Parc Deux Moulins, 11 avenue de la Créativité, 59 650 Villeneuve. Participation aux frais, 8 euros. Le samedi 13 novembre 2010, à 14h30, le chaînon spiritualiste Dunkerquois organisera une conférence sur le thème « Comprendre les ressentis d'un médium ». Celle-ci aura lieu dans la salle d'animation senior 1 bis rue Paul Doumer à 59 240 Rosendal. Le samedi 20 novembre 2010 à 17h, le centre d'études spirites Victor Hugo recevra en son siège social 22 rue Duchesse Anne à 35 760 Saint-Grégoire près de Rennes, notre frère Michael Ponsardin, lequel vous présentera une conférence sur le thème Chico Xavier, l'homme et le médium. Renseignements et inscriptions par téléphone en formant depuis la France le 06 26 31 76 29 ou via courriel à l'adresse suivante centre.victorhugo@gmail.com. Nos amis de l'association du chemin vous invitent à prendre note de l'agenda des conférences prévues pour les prochains mois. Le samedi 27 novembre à 14h30 sur le thème Chico Xavier, l'homme et le médium, celle-ci vous sera présentée par notre frère Michael Ponsardin, conférencier biographe. La dernière conférence est prévue autour du thème « La force de la prière ». Elle aura lieu, quant à elle, le samedi 18 décembre 2010 à 14h30. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante asso.du.chemin@free.fr ou tout simplement par voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Vous pourrez également obtenir d'autres informations via le site internet de l'association à l'adresse suivante www.le-chemin.org. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à poursuivre la lecture de la Genèse selon le spiritisme. Suite du chapitre 17, traitant des prédictions de l'Évangile selon le spiritisme. Annonce du Consolateur, point 35 à 42, second avènement du Christ, point 43.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 17, prédiction de l'Évangile. Annonce du Consolateur, point 35. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai mon Père, il vous enverra un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que ce monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 14, versets 15, 16, 17 et 26. Évangile selon le spiritisme, chapitre 6. Fermez la parenthèse. Point 36. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Touchant le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Touchant la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Touchant le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter présentement. Quand cet esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 16, versets de 7 à 14. Fermez la parenthèse. Point 37. Cette prédiction est, sans contredit, l'une des plus importantes au point de vue religieux, car elle constate de la manière la moins équivoque que Jésus n'a pas dit tout ce qu'il y avait à dire. parce qu'il n'aurait pas été compris, même de ses apôtres, puisque c'est à eux qu'il s'adresse. S'il leur eût donné des instructions secrètes, ils en auraient fait mention dans l'Évangile. Dès lors qu'il n'a pas tout dit à ses apôtres, leurs successeurs n'ont pu en savoir plus qu'eux. Ils ont donc pu se méprendre sur le sens de ses paroles, donner une fausse interprétation à ses pensées, souvent voilées sous la forme parabolique. Les religions fondées sur l'Évangile ne peuvent donc se dire en possession de toute la vérité, puisqu'il s'est réservé de compléter ultérieurement ses instructions. Leur principe d'immuabilité est un démenti donné aux paroles mêmes de Jésus. Il annonce sous le nom de Consolateur et d'Esprit de vérité celui qui doit enseigner toutes choses et faire ressouvenir de ce qu'il a dit. Donc son enseignement n'était pas complet. De plus, il prévoit qu'on aura oublié ce qu'il a dit et qu'on l'aura dénaturé, puisque l'Esprit de vérité doit en faire ressouvenir et, de concert avec Élie, rétablir toutes choses, c'est-à-dire selon la véritable pensée de Jésus. Point 38. Quand ce nouveau révélateur doit-il venir? Il est bien évident que si, à l'époque où parlait Jésus, les hommes n'étaient pas en état de comprendre les choses qui lui restaient à dire, ce n'est pas en quelques années qu'ils pouvaient acquérir les lumières nécessaires. Pour l'intelligence de certaines parties de l'Évangile, à l'exception des préceptes de morale, il fallait des connaissances que le progrès des sciences pouvait seul donner, et qui devait être l'œuvre du temps et de plusieurs générations. Si donc le nouveau Messie fut venu peu de temps après le Christ, il aurait trouvé le terrain tout aussi peu propice, et il n'eût pas fait plus que lui. Or, depuis le Christ jusqu'à nos jours, il ne s'est produit aucune grande révélation qui ait complété l'Évangile, et qui en ait élucidé les parties obscures, et dit certain que l'envoyé n'avait pas encore paru. Point 39. Quel doit être cet envoyé? Jésus disant, « Je prierai mon Père, et il vous enverra un autre consolateur. » Elle dit clairement que ce n'est pas lui-même, autrement il l'aurait dit. « Je reviendrai compléter ce que je vous ai enseigné. » Puis il ajoute, « Afin qu'il demeure éternellement avec vous, et il sera en vous. » Ceci ne saurait s'entendre d'une individualité incarnée qui ne peut demeurer éternellement avec nous, et encore moins être en nous, mais se comprend très bien d'une doctrine qui, en effet, lorsqu'on se l'est assimilée, peut être éternellement en nous. Le Consolateur est donc, dans la pensée de Jésus, la personnification d'une doctrine souverainement consolante, dont l'inspirateur doit être l'Esprit de vérité. Point 40. Le spiritisme réalise, comme cela a été démontré, entre parenthèses chapitre 1 numéro 30, fermez la parenthèse, toutes les conditions du consolateur promis par Jésus. Ce n'est point une doctrine individuelle, une conception humaine. Personne ne peut s'en dire le créateur. C'est le produit de l'enseignement collectif des esprits auquel préside l'esprit de vérité. Il ne supprime rien de l'Évangile, il le complète et l'élucide. À l'aide des nouvelles lois qu'il révèle, jointes à celles de la science, il fait comprendre ce qui était inintelligible, admettre la possibilité de ce que l'incrédulité regardait comme inadmissible. Il a eu ses précurseurs et ses prophètes qui ont pressenti sa venue. Par sa puissance moralisatrice, il prépare le règne du bien sur la terre. La doctrine de Moïse, incomplète, est restée circonscrite dans le peuple juif. Celle de Jésus, plus complète, s'est répandue sur toute la terre par le christianisme, mais n'a pas converti tout le monde. Le spiritisme, plus complet encore, ayant des racines dans toutes les croyances, convertira l'humanité. Remarque. Toutes les doctrines philosophiques et religieuses portent le nom de l'individualité fondatrice. On dit le mosaïsme, le christianisme, le mahométisme, le bouddhisme, le cartésianisme, le fouriérisme, le saint-simonisme, etc. Le mot spiritisme, au contraire, ne rappelle aucune personnalité. Il renferme une idée générale qui indique à la fois le caractère et la source multiple de la doctrine. Fin de la remarque. Point 41. Jésus disant à ses apôtres, Un autre viendra plus tard qui vous enseignera ce que je ne puis vous dire maintenant. Proclamez par cela même la nécessité de la réincarnation. Comment ces hommes pouvaient-ils profiter de l'enseignement plus complet qui devait être donné ultérieurement? Comment seraient-ils plus aptes à le comprendre s'ils ne devaient pas revivre? Jésus eût dit une inconséquence si les hommes futurs devaient, selon la doctrine vulgaire, être des hommes nouveaux, des âmes sorties du néant à leur naissance. Admettez au contraire que les apôtres et les hommes de leur temps ont vécu depuis, qu'ils revivent encore aujourd'hui. La promesse de Jésus se trouve justifiée. Leur intelligence, qui a dû se développer au contact du progrès social, peut porter maintenant ce qu'elle ne pouvait porter alors. Sans la réincarnation, la promesse de Jésus eût été illusoire. Point 42. Si l'on disait que cette promesse fut réalisée le jour de la Pentecôte par la descente du Saint-Esprit, on répondrait que le Saint-Esprit les a inspirés, qu'il a pu ouvrir leur intelligence, développer en eux les aptitudes médianimiques qui devaient faciliter leur mission, mais qu'il ne leur a rien appris de plus que ce que avait enseigné Jésus. Car on ne trouve nulle trace d'un enseignement spécial. Le Saint-Esprit n'a donc point réalisé ce que Jésus avait annoncé du Consolateur. Autrement, les apôtres auraient élucidé dès leur vivant tout ce qui est resté obscur dans l'Évangile jusqu'à ce jour, et dont l'interprétation contradictoire a donné lieu aux innombrables sectes qui ont divisé le christianisme dès les premiers siècles. Second avènement du Christ. Point 43. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Ou par quel échange l'homme pourra-t-il racheter son âme après qu'il l'aura perdue? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui n'éprouveront pas la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. » Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, versets de 24 à 28. Fermez la parenthèse.
Continuons notre lecture du jour par la suite du chapitre 17, traitant des prédictions de l'Évangile. Second avènement du Christ. Suite point 44 à 46, signe précurseur point 47 à 53.
L'Évangile selon le spiritisme, suite du chapitre 17, prédiction de l'Évangile. Second avènement du Christ, suite point 44. Alors le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit, « Vous ne répondez rien à ce que ceux-ci déposent contre vous. » Mais Jésus demeurait dans le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea encore et lui dit, « Êtes-vous le Christ, le Fils de Dieu béni à jamais ?» Jésus lui répondit, « Je le suis, et vous verrez un jour le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Aussitôt le grand prêtre, déchirant ses vêtements, leur dit, qu'avons-nous plus besoin de témoins? Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 14, versets de 60 à 63. Fermez la parenthèse. Point 45. Jésus annonce au second avènement, mais il ne dit point qu'il reviendra sur la terre avec un corps charnel, ni que le Consolateur sera personnifié en lui. Il se présente comme devant venir en esprit, dans la gloire de son Père, juger le mérite et le démérite, et rendre à chacun selon ses œuvres, quand les temps seront accomplis. Cette parole, « Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui n'éprouveront pas la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne », semble une contradiction, puisqu'il est certain qu'il n'est venu du vivant d'aucun de ceux qui étaient présents. Jésus ne pouvait cependant se tromper dans une prévision de cette nature, et surtout pour une chose contemporaine qui le concernait personnellement. Il faut d'abord se demander si ces paroles ont toujours été bien fidèlement rendues. On peut en douter si l'on songe qu'ils n'ont rien écrit. qu'elles n'ont été recueillies qu'après sa mort. Et lorsqu'on voit le même discours presque toujours reproduit en termes différents dans chaque évangéliste, c'est une preuve évidente que ce ne sont pas les expressions textuelles de Jésus. Il est en outre probable que le sens a dû parfois être altéré en passant par des traductions successives. D'un autre côté, il est certain que si Jésus avait dit tout ce qu'il aurait pu dire, il se serait exprimé sur toute chose d'une manière nette et précise, qu'il n'eût donné lieu à aucune équivoque, comme il le fait pour les principes de morale, tandis qu'il a dû voiler sa pensée sur les sujets qu'il n'a pas jugé à propos d'approfondir. Les apôtres, persuadés que la génération présente devait être témoin de ce qu'il annonçait, ont dû interpréter la pensée de Jésus selon leur idée. Ils ont pu, par conséquent, la rédiger dans le sens du présent d'une manière plus absolue qu'il ne l'a peut-être fait lui-même. Quoi qu'il en soit, le fait est là qui prouve que les choses ne sont pas arrivées ainsi qu'ils l'ont cru. Point 46. Un point capital que Jésus n'a pu développer, parce que les hommes de son temps n'étaient pas suffisamment préparés à cet ordre d'idées et à ses conséquences, mais dont il a cependant posé le principe, comme il l'a fait pour toute chose, c'est la grande et importante loi de la réincarnation. Cette loi, étudiée et mise en lumière de nos jours par le spiritisme, est la clé de mes passages de l'Évangile qui, sans cela, paraissent des contresens. C'est dans cette loi qu'on peut trouver l'explication rationnelle des paroles ci-dessus, en les admettant comme textuelles. Puisqu'elles ne peuvent s'appliquer à la personne des apôtres, il est évident qu'elles se rapportent au règne futur du Christ, c'est-à-dire au temps où sa doctrine, mieux comprise, sera la loi universelle. En leur disant que quelques-uns de ceux qui sont présents verront son avènement, cela ne pouvait s'entendre que dans le sens qu'ils revivraient à cette époque. Mais les Juifs se figuraient qu'ils allaient voir tout ce que Jésus annonçait et prenaient ses allégories à la lettre. Du reste, quelques-unes de ses prédictions se sont accomplies de leur temps, telles que la ruine de Jérusalem, les malheurs qui en furent la suite, et la dispersion des Juifs. Mais Jésus porte sa vue plus loin, et en parlant du présent, il fait constamment allusion à l'avenir. Signe précurseur, point 47. Vous entendrez aussi parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous bien de vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car on verra se soulever peuple contre peuple et royaume contre royaume. Et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Et toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets 6, 7 et 8. Fermez la parenthèse. Point 48. Alors le frère livrera le frère à la mort, et le père le fils. Les enfants s'élèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 13, versets 12 et 13. Fermez la parenthèse. Point 49. Quand vous verrez que l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel sera dans le lieu saint, entre parenthèses, que celui qui lit entend bien ce qu'il lit, fermez la parenthèse. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient sur les montagnes. Remarque, cette expression « l'abomination de la désolation » non seulement n'a pas de sens, mais elle prête au ridicule. La traduction d'Ostorval dit « l'abomination qui cause la désolation », ce qui est très différent. Le sens, alors, devient parfaitement clair, car on comprend que les abominations doivent amener la désolation comme châtiment. Quand, dit Jésus, l'abomination viendra dans le lieu saint, la désolation y viendra aussi, et ce sera un signe que les temps sont proches. Fait de la remarque. Que celui qui est au haut du toit n'en descende point pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne point pour prendre ses vêtements. Mais malheur aux femmes qui seront grosses ou nourrices en ces jours-là. Priez donc Dieu que votre fuite n'arrive point durant l'hiver, ni au jour du sabbat, car l'affliction de ce temps-là sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. et si ses jours n'avaient été abrégés, nul homme n'aurait été sauvé. Mais ces jours seront abrégés en faveur des élus. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 22. Fermez la parenthèse. Point 50. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre seront dans les pleurs et dans les gémissements. Et ils verront le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec une grande majesté. Et il enverra ses anges qui feront entendre la voix éclatante de leur trompette et qui rassembleront ses élus des quatre coins du monde, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Apprenez une comparaison tirée du figuier. Quand ses branches sont déjà tendres et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est comme à la porte. Je vous dis en vérité que ces traces ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets de 29 à 34. Fermez la parenthèse. Et il arrivera à l'avènement du Fils de l'homme ce qui arriva au temps de Moïse. Car, comme dans les derniers temps avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent pas le moment du déluge que lorsqu'il survint et emporta tout le monde. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 et 38. Fermez la parenthèse. Point 51. Quant à ce jour-là, ou à cette heure, nul ne le sait, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 13, verset 32. Fermez la parenthèse. Point 52. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Une femme, lorsqu'elle enfante, est dans la douleur, parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de ses maux, dans la joie qu'elle a d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant, dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, versets 20, 21 et 22. Fermez la parenthèse. Point 53. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité abondera, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui-là sera sauvé qui persévérera jusqu'à la fin. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que la fin arrivera. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets de 11 à 14. Fermez la parenthèse.
Pour clôturer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 17, signes précurseurs, suite point 54 à 58, vos fils et vos filles prophétiseront, point 57 à 61, jugement dernier, point 62 à 63.
L'Évangile selon le spiritisme. Suite du chapitre 17, prédiction de l'Évangile. Signe précurseur. Suite. Point 54. Ce tableau de la fin des temps est évidemment allégorique, comme la plupart de ceux que présentait Jésus. Les images qu'il contient sont de nature, par leur énergie, à impressionner des intelligences encore frustes. Pour frapper ces imaginations plus subtiles, il fallait des peintures vigoureuses, aux couleurs tranchées. Jésus s'adressait surtout au peuple, aux hommes les moins éclairés, incapables de comprendre les abstractions métaphysiques et de saisir la délicatesse des formes. Pour arriver au cœur, il fallait parler aux yeux à l'aide de signes matériels et aux oreilles par la vigueur du langage. par une conséquence naturelle de cette disposition d'esprit, la puissance suprême ne pouvait, selon la croyance d'alors, se manifester que par des choses extraordinaires, surnaturelles. Plus elles étaient impossibles, mieux elles étaient acceptées comme probables. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande majesté, entouré de ses anges et au bruit des trompettes, leur semblait bien autrement imposant qu'un être investi de la seule puissance morale. Aussi les Juifs, qui attendaient dans le Messie un roi de la terre, puissant entre tous les rois, pour mettre leur nation au premier rang et relever le trône de David et de Salomon, ne voulurent-ils pas le reconnaître dans l'humble fils du charpentier, sans autorité matérielle? Cependant, ce pauvre prolétaire de la Judée est devenu le plus grand entre les grands. Il a conquis à sa souveraineté plus de royaumes que les plus puissants potentats. Avec sa seule parole et quelques misérables pécheurs, il a révolutionné le monde, et c'est à lui que les Juifs devront leur réhabilitation. Il était donc dans le vrai, quant à cette question de Pilate. « Êtes-vous roi ?» Il répondit, « Vous le dites. » Point 55. Il est à remarquer que chez les anciens, les tremblements de terre et l'obscurcissement du soleil étaient les accessoires obligés de tous les événements et de tous les présages sinistres. On les retrouve à la mort de Jésus, à celle de César et dans une foule de circonstances de l'histoire du paganisme. Si ces phénomènes se fussent produits aussi souvent qu'on le raconte, il paraîtrait impossible que les hommes n'en eussent pas conservé la mémoire par la tradition. Ici, on ajoute les étoiles qui tombent du ciel, comme pour témoigner aux générations futures plus éclairées qu'il ne s'agit que d'une fiction, puisqu'on sait maintenant que les étoiles ne peuvent tomber. Point 56. Cependant, sous ces allégories se cachent de grandes vérités. C'est d'abord l'annonce des calamités de tout genre qui frapperont l'humanité et la décimeront. Calamités engendrées par la lutte suprême entre le bien et le mal, la foi et l'incrédulité, les idées progressives et les idées rétrogrades. Secondement, celle de la diffusion par toute la terre de l'Évangile rétabli dans sa pureté primitive. Puis le règne du bien, qui sera celui de la paix et de la fraternité universelle, sortira du code de morale évangélique mis en pratique par tous les peuples. Ce sera véritablement le règne de Jésus, puisqu'il présidera à son établissement et que les hommes vivront sous l'égide de sa loi. Règne de bonheur, car, dit-il, après les jours d'affliction viendront les jours de joie. Point 57. Quand s'accompliront ces choses? Nul ne le sait, dit Jésus, pas même le Fils. Mais quand le moment sera venu, les hommes en seront avertis par des indices précurseurs. Ces indices ne seront ni dans le soleil, ni dans les étoiles, mais dans l'état social et dans des phénomènes plus moraux que physiques, et que l'on peut en partie déduire de ses allusions. Il est bien certain que ce changement ne pouvait s'opérer du vivant des apôtres, autrement Jésus n'aurait pu l'ignorer. Et d'ailleurs, une telle transformation ne pouvait s'accomplir en quelques années. Cependant, il leur parle comme s'ils devaient en être témoins. C'est qu'en effet, ils pourront revivre à cette époque et travailler eux-mêmes à la transformation. Tantôt, il parle du sort prochain de Jérusalem, et tantôt il prend ce fait comme point de comparaison pour l'avenir. Point 58. Est-ce la fin du monde que Jésus annonce par sa nouvelle venue et quand il dit « Lorsque l'Évangile sera prêché par toute la terre, c'est alors que la fin arrivera. » Il n'est pas rationnel de supposer que Dieu détruise le monde précisément au moment où il entrera dans la voie du progrès moral par la pratique des enseignements évangéliques. Rien d'ailleurs dans les paroles du Christ n'indique une destruction universelle qui, dans de telles conditions, ne serait pas justifiée. La pratique générale de l'Évangile, devant amener une amélioration dans l'état moral des hommes, amènera par cela même le règne du bien et entraînera la chute de celui du mal. C'est donc à la fin du vieux monde, du monde gouverné par les préjugés, l'orgueil, l'égoïsme, le fanatisme, l'incrédulité, la cupidité et toutes les mauvaises passions, que le Christ fait allusion quand il dit « Lorsque l'Évangile sera prêché par toute la terre, c'est alors que la fin arrivera. » Mais cette fin amènera une lutte, et c'est de cette lutte que sortiront les maux qu'il prévoit. vos fils et vos filles prophétiseront. Point 59. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Entre parenthèses, Actes chapitre 2, versets 17 et 18, ainsi que Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Fermez la parenthèse. Point 60. Si l'on considère l'état actuel du monde physique et du monde moral, les tendances, les aspirations, les pressentiments des masses, la décadence des vieilles idées qui se débattent en vain depuis un siècle contre les idées nouvelles, on ne peut douter qu'un nouvel ordre de choses se prépare et que le vieux monde touche à sa fin. Si maintenant, en faisant la part de la forme allégorique de certains tableaux, ayant scrutant le sens intime des paroles de Jésus, on compare la situation actuelle avec les temps décrits par lui, comme devant marquer l'ère de la rénovation, on ne peut disconvenir que plusieurs de ces prédictions reçoivent aujourd'hui leur accomplissement. D'où il faut conclure que nous touchons au temps annoncé, ce que confirment sur tous les points du globe les esprits qui se manifestent. Point 61. Ainsi qu'on l'a vu, entre parenthèses chapitre 1er numéro 32, fermez la parenthèse, l'avènement du spiritisme coïncidant avec d'autres circonstances réalise une des plus importantes prédictions de Jésus, par l'influence qu'il doit forcément exercer sur les idées. Il est en outre clairement annoncé, dans celle qui est rapportée aux Actes des Apôtres, « Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » C'est l'annonce non équivoque de la vulgarisation de la médiumnité qui se révèle de nos jours chez les individus de tout âge, de tout sexe et de toute condition, et par suite de la manifestation universelle des esprits. Car sans les esprits, il n'y aurait pas de médium. Cela, est-il dit, arrivera dans les derniers temps? Or, puisque nous ne touchons pas à la fin du monde, mais au contraire à sa régénération, il faut entendre par ces mots les derniers temps du monde moral qui finit. Entre parenthèses, Évangile selon le spiritisme, chapitre 21. Fermez la parenthèse. Jugement dernier. Point 62. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté accompagné de tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, etc. » Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 25, versets de 31 à 46, et Évangile selon le spiritisme, chapitre 15. Fermez la parenthèse. Point 63. Le bien devant régner sur la terre, il faut que les esprits endurcis dans le mal et qui pourraient y porter le trouble en soient exclus. Dieu les y a laissé le temps nécessaire à leur amélioration. Mais le moment où le globe doit s'élever dans la hiérarchie des mondes, par le progrès moral de ses habitants, étant arrivé, le séjour comme esprit et comme incarné en sera interdit à ceux qui n'auront pas profité des instructions qu'ils ont été à même d'y recevoir. Ils seront exilés dans des mondes inférieurs, comme le furent jadis sur la terre ceux de la race adamique, tandis qu'ils seront remplacés par des esprits meilleurs. C'est cette séparation à laquelle présidera Jésus, qui est figurée par ses paroles du jugement dernier. Les bons passeront à ma droite et les méchants à ma gauche. Entre parenthèses, chapitre 11, numéro 31 et suivant. Fermez la parenthèse.
Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.